Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et l'on va évoquer Facebook. Facebook au cœur de l'actualité. En une, par exemple, du magazine L'Express avec le poison Facebook derrière le réseau Big Brother, radioscopie d'un monopole, l'influence sur les élections que peut avoir Facebook avec 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels, 22 milliards de bénéfices par an, 552 milliards de capitalisation boursière. Bref. Facebook, si vous en doutiez, est un monstre. Que faut-il faire de ce monstre? Alors tout d'abord, pour évoquer ce monstre-là et essayer de l'analyser, nous sommes en compagnie d'un sociologue, Dominique Cardon. Vous êtes directeur du Media Lab à Sciences Po et vous venez de publier votre cours. Il s'intitule « Culture numérique » aux éditions de presse de Sciences Po. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. Justement, j'aimerais savoir comment vous présenteriez Facebook à des étudiants. Comment vous faites aujourd'hui pour expliquer ce qu'est un réseau social ?
Bon, bonjour. Donc, vous voulez que je fasse un cours?
Vous êtes là pour ça.
Non, mais c'est effectivement l'intérêt de développer une culture numérique, c'est effectivement d'entrer dans ces mécanismes sociaux, économiques et culturels. Facebook, c'est, enfin, les réseaux sociaux, dont Facebook est aujourd'hui l'entreprise dominante, c'est la sociabilité. Et ce qui est au cœur, en fait, de cette chose qui est apparue autour de 2003-2004, hein, c'est l'idée que sur le web où on publiait, on avait des gens qui avaient des statuts sociaux, culturels, pour exprimer des choses, écrire des articles. Une nouvelle fonction est entrée en marche dans le monde numérique, qui est l'idée de mettre les gens en relation. Donc en fait, ce qui fait Facebook d'abord, c'est de choisir des amis. On choisit un espace de publication dont la visibilité est limitée, en fait, aux gens qu'on a choisi et qu'on va appeler, avec les mille guillemets qu'il faut mettre, qu'on va appeler des amis. Et à partir de là, on a quelque chose qui ressemble à la forme du réseau social. Après tout, j'ai de la famille, j'ai des collègues, il y a des gens que je connais, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que je rencontre au syndicat, au club de sport, que sais-je. Je vais les mettre ensemble dans une sorte de niche écologique qui devient numérique, dans lequel... ce que je fais, ce que je dis, ce que je publie peut être commenté, discuté, partagé par d'autres. Et en fait, on instaure dans un espace numérique qui va nous accompagner dans nos poches et qui va progressivement se glisser et se glisser de plus en plus intimement dans nos vies, une manière de porter avec soi son réseau social pour avoir des interactions, échanger et être de façon un peu continue accroché à cet espace social que l'on a fabriqué.
Est-ce que c'est quelque chose d'aussi nouveau? Alors, les réseaux sociaux, Internet, évidemment, c'est nouveau, mais on n'arrête pas d'insister, Dominique Cardon, sur le caractère d'absolue nouveauté de la chose. On a raison?
C'est nouveau parce qu'il y a des propriétés du numérique qui font quelque chose de nouveau et mis en place. Mais du point de vue du sociologue qui essaye toujours de voir les articulations entre des pratiques sociales et puis les innovations qui apparaissent dans la vie ordinaire, avoir des amis, discuter avec eux, échanger, partager des blagues, être dans l'effusion, être dans tous ces mécanismes de conversation n'ont rien de nouveau. Simplement, ils sont sur cette machine.
Vous brandissez votre téléphone portable.
Ils sont sur cette machine et du coup, ils nous quittent plus. Et ne nous quittant plus, ils sont sur cet écran qui nous obsède aussi. Et donc là, on crée quand même des pratiques et des habitudes qui ont un caractère un peu nouveau.
Oui, mais alors attendez, parce que la sociabilité, c'est quelque chose de très ancien, évidemment. Mais alors, il y a les formes de la sociabilité, ou plutôt les manières dont elle s'illustre aujourd'hui. On a dans l'actualité, par exemple, la tuerie de Christchurch, et c'est l'une des polémiques où il est question de Facebook, puisque le tueur a filmé ses exactions, et celles-ci ont été diffusées pendant 17 minutes sur Facebook, et évidemment, cela pose problème. Alors, que ce soit des films de massacre ou des films infiniment plus innocents ou anodins, qui constituent quand même l'essentiel, Dieu merci, des films sur Facebook, le fait que sur Facebook, on utilise des photos, des vidéos, des posts, autrement dit, des choses qu'on écrit, mais pour Facebook, ça c'est quelque chose de nouveau dans le domaine de la sociabilité, Dominique Cardon.
Alors, ce qu'a introduit cette idée de se mettre en réseau conversationnel, c'est évidemment aussi l'idée de... Là, le numérique a permis ça, d'être dans un processus de fabrication identitaire. Et donc, ce qui a été vraiment au cœur de l'idée de Facebook, c'est finalement, on va ajouter des amis auprès desquels on va construire, sculpter, fabriquer son image pour essayer d'obtenir de la reconnaissance auprès d'eux. Et fabriquant cette réputation, on a élargi le cercle des gens qu'on connaissait. On a fabriqué une sociabilité beaucoup plus large que celle des 20 ou 30 amis qu'on a dans la vie ordinaire. On a du coup fabriquer aussi une sorte de mécanisme de production de soi, de mise en scène de soi, à travers lesquels la photo, le selfie, la vidéo, des éléments aussi très positifs, toutes les enquêtes qu'on a pu faire sur ce que disent les gens sur Facebook, c'est pas toute la vie de la personne en fait qui est rassemblée dans cette page, mais c'est souvent les éléments extraordinairement valorisants de la personne. Et donc on a aussi produit cette idée d'une culture d'individus qui cherche à... Non pas à paraître pour paraître, c'est paraître pour faire de la conversation, mais dans lequel on a très très largement étendu les mécanismes de production de son identité. Et ces mécanismes de production de son identité, ils vont beaucoup passer effectivement par la photographie et la vidéo.
Mais alors c'est étrange que vous parliez de reconnaissance, je crois que c'est une notion importante en sociologie, la reconnaissance, mais on se rend compte, Dominique Cardon, que une part de l'activité des réseaux sociaux est consacré à haïr, où là, il est quand même assez peu question de reconnaissance. Expliquez-nous ce paradoxe.
Oui, alors, il faut là être attentif. Mais alors, je sais que c'est toujours difficile de dire ça quand on regarde les enquêtes, mais dans les enquêtes, les réseaux sociaux, surtout de ce type-là, 98% est consacré à des messages d'amour. Je t'aime, t'es formidable, t'es ma best, etc. C'est ça. Massivement. Alors, c'est tellement présent, en fait, ces gens qui s'envoient des petits signaux de sympathie, d'amitié,
l'amour est très présent.
D'amour, que on ne voit plus que les 2% des discours de haine. Les discours de haine sont effectivement, ou des discours, des méchancetés, etc. Ils sont en réalité assez peu présents. Bon, même si statistiquement, évidemment, quand on a 2,5 milliards d'utilisateurs, on en a. Sur des réseaux du type, très fermé du type Facebook, c'est plus des réseaux qui donnent la visibilité sur les utilisateurs. Ça, c'est toujours quelque chose de compliqué à faire comprendre. Twitter, c'est pas Facebook. Twitter, c'est un espace dans lequel on a énormément de followers, c'est plus des amis, là, on capitalise.
Quelle est la différence
énormément
entre Twitter
relations.
Et Facebook pour vous,
C'est que dans les usages, parce qu'après, dans Twitter, mais on entrerait dans des complications, on peut aussi avoir un compte privé, mais c'est que le compte, il est visible de tous. C'est que je peux aller vous chercher sur Twitter, même si je ne vous suis pas. Et donc on a une publicité beaucoup plus grande de la vie, de l'expression de la personne, et que du coup on entre dans des débats qui, où parfois les questions d'opinion, d'idéologie et de discours de haine, de brutalisation en fait du débat public, ils sont beaucoup plus présents parce que les intérêts du brutaliseur sont de susciter une forte attention. Facebook, il faut le rappeler, hein, la moyenne, ça tourne entre 150 et 200 amis. On n'est pas en train d'étendre son espace au grand espace public dans cette affaire, et que quand on a des disputes, et il peut y avoir des disputes, et il peut y avoir des discours un petit peu violents, ils n'ont pas la même visibilité qu'ils pourraient l'avoir sur Twitter.
En sociologie des médias, il me semble, Dominique Cardon, qu'on a tendance à dire que la forme du message influe sur son fond. Autrement dit, qu'il y a un lien évident entre ce qu'on va pouvoir communiquer avec la télé, avec les journaux ou avec Internet. Qu'est-ce que ça change avec les réseaux sociaux, et là en l'occurrence avec Facebook?
Alors ça, c'est très important. Alors, je ne sais pas si c'est l'endroit de faire cette démonstration un peu théorique, mais le régime d'énonciation, la manière dont on parle, le ton, la manière de faire, le vocabulaire qu'on emploie, change complètement en fonction du niveau de visibilité et de publicité. Et donc l'architecture des plateformes, et ça ce sont les concepteurs, Facebook et Twitter, qui en disant « tu ne vas être vu de très peu de gens, tu vas être vu d'énormément de gens », change la manière dont on s'exprime et le type d'engagement qu'on a. C'est pour ça que la haine vient plus dans des espaces un peu publics, enfin les discours idéologiques, de façon forte. Dans Facebook, le ton employé, majoritairement parce que on trouve tous les usages possibles, mais c'est celui de la conversation. Ça ressemble à des discussions de café, ça ressemble à des discussions entre copains et copines dans la cour d'école. Le ton est relâché, il est désinhibé, et du coup, on s'autorise des modes d'énonciation qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libre, beaucoup plus incertain, beaucoup plus authentique, mais aussi beaucoup plus joué, beaucoup plus mis en scène. Et du coup, il y a des propos qui, dits sur une page Facebook, prennent sens dans le contexte interactionnel que peuvent avoir les personnes entre eux, mais dès qu'ils sont mis en visibilité du prof, du futur recruteur, de la police, etc., prennent un sens complètement différent parce qu'on oublie qu'il a été prononcé dans un espace où l'énonciation n'avait pas du tout la même forme qu'elle peut l'avoir dans un espace public.
Ça veut dire que les personnes s'en servent comme si c'était un espace privé, ils oublient que c'est du privé public.
Alors c'est du privé public, ils l'oublient sans l'oublier parce qu'ils savent très bien que, etc. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des formes d'énonciation et puis des formes de choses qu'on va ensuite regretter, qui sont liées au caractère, à la forme de la visibilité qui est possible sur ces plateformes et qui peut créer effectivement toute une série de troubles pour les personnes.
Mais alors, est-ce que ça crée non pas un homme nouveau, mais alors par exemple une autre manière d'appréhender la politique? On a beaucoup parlé par exemple de bulles, les bulles que créerait Facebook avec un intérêt pour ce mystérieux algorithme qui ferait en sorte que nous serions confrontés sur Facebook à des opinions qui seraient similaires aux nôtres, bref, qu'on serait renforcé dans ses convictions, tout en sachant qu'aujourd'hui, Facebook est un vecteur essentiel dans l'information des personnes. C'est le cas en France et dans beaucoup d'autres pays, Dominique Cardon.
Bon, alors, il y a un peu de sujet parce que le premier, et là il faut vraiment le dire en sociologue, c'est qu'évidemment, ce jeu nouveau-là qu'on vient de décrire ensemble, il s'appuie sur les ressources sociales et culturelles des personnes. Elles sont très inégalement distribuées.
Donc, la manière. Qu'est-ce que ça veut dire des ressources inégalement distribuées?
Ça veut dire que le fonctionnement du système conversationnel dépend des amis que j'ai, et les amis que j'ai, on n'a pas le même type d'amis en fonction de sa position dans l'espace social. Il y a une très très grande différence entre milieux sociaux, classe moyenne et surtout classe supérieure, qui ont des amis internationaux, qui ont des amis beaucoup plus divers socialement, qui ont des amis plus nombreux, et puis des utilisateurs de Facebook, des milieux populaires, qui ont été très bien étudiés par Dominique Pasquier dans un ouvrage récent, qui ont en fait un nombre d'amis sur Facebook qui est beaucoup plus restreint et qui est très homogène socialement et territorialement. Donc en fait, les ressources sociales que nous offre notre espace relationnel sont extrêmement différentes. C'est une des inégalités les plus fondamentales dans notre société, qu'on appelle parfois le capital social. Et donc, le choix de ses amis va ensuite déterminer les informations qu'on va voir. L'humeur, la tendance, la couleur des conversations va être définie par le réseau social que j'ai choisi en choisissant mes amis. Par-dessus, Facebook y ajoute un algorithme qui va filtrer et trier. Donc il y ajoute un effet de sélection qui peut parfois effectivement enfermer les gens dans une sorte de bulle qui est à la fois fabriquée par la socialisation des individus parce qu'ils ont tel ou tel type d'amis qui ont fréquemment nos amis des opinions politiques proches, et puis par l'algorithme de Facebook qui vient y ajouter ses propres choix.
Alors est-ce que ça change la propagande, puisque aujourd'hui au cœur de l'actualité il y a le soupçon d'une influence sur les élections? C'est par exemple la une de l'Express que j'ai sous les yeux. Alors influence russe, influence chinoise, bref, chacun a ses bêtes noires, mais qu'en est-il selon vous, Dominique Cardon?
Alors, c'est là aussi un grand sujet de discussion. Alors, je vais dire trop rapidement le résultat de beaucoup d'études américaines et d'une étude que nous, on a fait au Media Lab en France, c'est qu'il y a une petite panique sur cette affaire de fake news. Elles ont été peu en France, en fait, en réalité, peu en France, ou bien à des niveaux de visibilité extrêmement bas et mineurs, qui sont, à mon avis, sans grandes conséquences. Elles ont été absolument massives aux États-Unis. En revanche, on n'a aucune étude qui montre qu'elles ont des effets. Et donc le point central que les chercheurs essayent de faire passer, mais qui est un peu difficile dans le débat public, on s'est tous mis dans la tête, et avec, pour des raisons un petit peu bizarres et obscures, que l'élection de Donald Trump, le Brexit, etc., une conséquence des fake news. Bon, c'est une théorie des médias un peu médiocre, celle des effets forts, c'est-à-dire qu'on aurait bien ciblé les personnes, on leur aurait mis message et ils auraient changé la couleur de leur vote.
C'est pas qu'une théorie fumeuse, c'est aussi un procès, le procès contre Cambridge Analytica qui utilisait donc les ressources des réseaux sociaux pour cibler des personnes.
Absolument. Peut-être important de le dire, il faut faire, je pense vraiment, attention à une sorte de mythologie qui est en train de se constituer, auquel croient à la fois ceux qui les vendent et ceux qui les critiquent. L'idée que un ciblage absolument précis d'une page Facebook dans laquelle on met l'information qui pourrait juste jouer dans les failles du système de représentation des individus, fasse changer leur attitude et leur vote, n'a jamais été bien démontré. Et donc les résultats qu'on a sur la pertinence des effets, ils sont très 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 faibles, ces effets. Donc il y a quelque chose qui se fabrique aujourd'hui, et c'est notamment parce que ces gens du marketing personnalisé essayent de vendre la qualité de leur outil. Mais les enquêtes qu'on a, et je pense notamment à celle qui vient d'être publiée par Yoshai Benkler et des chercheurs de Harvard, mettent quand même plutôt en doute l'idée de cette hyper pertinence des modèles personnalisés. Une des raisons, c'est que on se trompe en pensant que Facebook raconte tout de notre vie, de nos idées, de nos représentations, de nos relations.
C'est pourtant ce que Facebook prétend. Alors, on comprend bien que Facebook a intérêt à prétendre cela.
Mais c'est toujours... Ça fait partie des grandes mythologies qui se constituent à partir des technologies numériques, puis cette idée du pouvoir, cette idée que la donnée est en train absolument de nous pister et de nous cerner, cette idée que l'intelligence artificielle sait tout faire alors qu'elle est assez idiote dans son fonctionnement. Facebook, il a une partie de nos vies. Il a justement la partie de notre vie qu'on essaie de faire reconnaître à une partie du réseau social. Mais en réalité, il y a des comptes Facebook dans lesquels on a beaucoup d'éléments sur la vie des personnes. Enfin, la plupart du temps, on a la moitié de la vie. On a la version positive,
on n'a pas l'autre. On a parfois, on a souvent la vie politique de l'individu.
Le nombre de gens qui racontent précisément ça, c'est une idée très fausse, qui parlent de politique dans leur conversation ordinaire est beaucoup moins important qu'il ne l'est. Et ceux qui en parlent sont ceux qui sont déjà des militants très actifs, très convaincus et très réguliers, avec capital culturel souvent fort ou bien niveau d'engagement ou de compétences politiques très fort. Mais la plupart des conversations Facebook n'ont pas, je suis désolé de le dire, la politique pour principal objet. Je prends un exemple autre. On dit Google c'est tout de la santé des utilisateurs. Voilà. Et on s'est mis ça en tête. Google c'est mieux que la Sécu. Bon, c'est complètement... Réfléchissons deux minutes. C'est complètement idiot. Google a des informations sur les éventuels mots-clés qu'on a cherchés à propos de maladies qu'on aurait, mais il n'a pas vos examens sanguins, il n'a pas vos IRM, il n'a pas tout ça. Il y a autour des big data une mythologie de la précision des algorithmes qui est assez infondée.
Dominique Cardon, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes professeur de sociologie. Vous avez notamment publié Culture numérique aux éditions de Presse de Sciences Po. Vous serez rejoint par une journaliste, Clara Doina-Schmelk. Et là, on va voir dans quelle mesure la façon dont Facebook influe sur les élections ou n'influe pas, dans quelle mesure Facebook aujourd'hui règne sur les réseaux sociaux. Faut-il démanteler ce réseau social? On en parle dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture. Suite des matins consacrés à Facebook. Facebook, réseau social devenu monstrueux selon le cofondateur de ce réseau social. Facebook doit-il être démantelé? C'est la question qui se pose maintenant. Pour en parler, Dominique Cardon, professeur de sociologie, directeur du Media Lab à Sciences Po. Vous avez notamment publié Culture numérique aux éditions Presse de Sciences Po. Et j'accueille Clara Doina-Schmelk. Bonjour. Vous êtes journaliste, philosophe, spécialiste des médias et co-auteur avec Isabelle Rouen, Les métiers du futur, aux éditions First. Clara Doina-Schmelk, faut-il démanteler Facebook?
Alors, on pourrait penser que oui, parce qu'aujourd'hui, Facebook contrôle plus de 2 milliards de discussions. En 2012, Facebook a racheté Instagram. En 2014, WhatsApp. Donc, c'est des réseaux sociaux qui traversent toutes les générations, qui publient des données très différentes, des photographies, des discussions privées. Donc, en fait, Facebook est devenu une sorte de superstructure qui n'est pas assez autorégulé. On l'a vu récemment avec les événements qui sont passés à Christchurch, qui sont passés au Sri Lanka, où des appels à la haine étaient lancés depuis Facebook. Quand bien même Facebook tente d'autoréguler correctement la plateforme en supprimant les contenus haineux, là on a vu par exemple pour Christchurch, Facebook avait supprimé le jour même plus d'un million et demi de vidéos.
Plus d'un million et demi de vidéos, ouais. Ah oui.
Haineuse. Donc Facebook a bien l'intention de le faire, mais ne peut pas sans l'aide des États et d'autres superstructures qui peut-être devraient être créées à cet effet, réguler l'ensemble des conversations mondiales.
Par exemple, parce que si c'est une question de législation, cela signifierait que le démantèlement passerait au second plan, pourvu qu'il y ait des lois efficaces et des lois suffisamment restrictives contre ces contenus haineux. C'est ça, en fait, que vous visez, Clara Doina-Schmelk?
C'est surtout ça, parce qu'en fait, pour l'instant, Facebook est une structure trop puissante pour en fait pouvoir être régulé collectivement avec des États et avec éventuellement des structures indépendantes, des agences indépendantes.
Sur quoi ça bute ? Donnez-nous des exemples.
Par exemple, là encore, on a vu au Sri Lanka, justement, des contenus haineux. À chaque fois, à chaque événement, en fait, notamment avec Facebook Live, concrètement, qui permet à n'importe qui de produire des vidéos haineuses et appelant à la haine immédiatement. Alors certes, Facebook punit la personne de 30 jours d'interdiction, mais on peut très bien se recréer un compte et on peut toujours publier par ailleurs des contenus haineux. Donc en fait, il faudrait peut-être que les États interviennent et donc démantèlent cette superstructure qui ne serait plus entièrement indépendante.
Mais est-ce le seul réseau social où on trouve des contenus haineux ? Parce que là, dans ce cas-là, ça n'aurait rien à voir avec le démantèlement ou avec la puissance de Facebook. Si on a d'autres contenus haineux, on sait qu'on en a un sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux, est-ce que le fait que ceci soit sur Facebook est quelque chose qui devrait nous inciter à démanteler ce réseau social, Dominique Cardon ?
Oui, il y a le débat. En fait, dans le débat sur la régulation, ce qu'on observe depuis très longtemps avec le numérique, c'est qu'on n'arrive pas du tout à avoir de pouvoir sur les acteurs économiques avec le droit de la liberté d'expression ou de la vie privée. En fait, l'endroit où il y a un levier, c'est les questions économiques et de concurrence, notamment. Et c'est là que Margrethe Vestager, à la Commission européenne, arrive à produire de la régulation. Or, sur Facebook, la question du démantèlement, il faut le mettre du côté des droits économiques, là. C'est qu'il y a une situation de monopole sur la concurrence qui est absolument problématique. On retrouve une problématique que les Américains avaient connue, et c'est pour ça que Chris Hughes, le cofondateur de Facebook, il fait mention. C'est qu'en 1984, c'est un événement très important dans l'histoire économique américaine, l'État américain a démantelé AT&T, le grand opérateur de télécom. Ça a eu des effets absolument énormes, en fait, sur aussi sur l'innovation, d'ailleurs, et sur la création de l'Internet. Là, Facebook et Google, parce que là, ils sont deux, mais pour les réseaux sociaux, Facebook aspire 80% du marché publicitaire sur le numérique. Bon, c'est une situation qui n'est plus possible. Et il faut évidemment réfléchir très très sérieusement à cette question du démantèlement.
Clara Donnay-Schmelk, votre point de vue là-dessus ?
Oui, et notamment les contenus ne peuvent passer par le modèle économique de la publicité, puisqu'en fait on peut,
par exemple,
on peut monnayer, par exemple, sponsoriser des sites ou sponsoriser des.
C'est-à-dire que si vous voulez promouvoir
la haine, vous pouvez le faire via Facebook et ça fait partie de son modèle économique. Et c'est aussi.
Dans ce cas-là, si vous avez un film, je ne sais pas, un film raciste, un film appelant à la violence, vous pouvez payer
après, Facebook
pour effectivement que ce film soit diffusé. Et Facebook va accepter ça ?
Facebook ne va pas accepter, mais il peut y avoir des débordements et surtout, au départ, c'était ça le modèle. C'était le modèle publicitaire. Chacun peut promouvoir ses contenus au nom de la liberté d'expression. Aujourd'hui, Facebook est le premier à remettre en cause ce modèle parce qu'il s'aperçoit bien que c'est néfaste à l'image de la plateforme.
Mais est-ce qu'on n'a pas affaire, Dominique Cardon, à deux problèmes ? On a un premier problème, Facebook est un acteur trop important, et dans ce cas-là, ça pose un problème effectivement de concurrence et un problème économique classique. Et puis le second problème, c'est qu'on a des messages haineux qui sont diffusés sur Internet.
Oui, alors effectivement, le modèle publicitaire est le problème actuel de l'économie numérique. Hein, on sent bien, et donc il y a des entreprises qui n'ont pas de modèle, qui ne s'appuient pas sur ce modèle publicitaire, mais Google et Facebook s'appuient dessus, et c'est une vraie question. Il y a des grandes variations. Alors il faut reconnaître que Facebook a beaucoup modifié suite à l'énorme crise de réputation qui est en train de connaître Facebook, qui est l'objet de toute l'attention du monde entier, qui est appelé devant les commissions d'enquête sénatoriales et parlementaire, qui fait l'objet de multiples discussions. Donc, ils ont modifié ce qu'ils avaient laissé filer. Et je pense que c'est le moment où Facebook, avec son algorithme, avec son choix publicitaire, a mis en place une infrastructure véritablement toxique, qui est d'abandonner la sociabilité qu'on évoquait tout à l'heure, pour faire rentrer dans le fil d'actualité des personnes, via l'algorithme, des contenus multiples et variés, mais addictifs. Auquel les gens...
Qu'est-ce que c'est qu'un contenu addictif ?
Oh bah c'est Facebook était devenu dans les années entre 2010 et 2016, on pourrait dire, une sorte de télévision. Et donc ils avaient perdu cette idée de l'interaction parce qu'ils nous montraient des vidéos de chats qui font rire, des vidéos très populaires, des choses qui suscitent l'attention.
Chats qui font rire, et en tout cas ça on ne peut pas en déduire de ces vidéos ou de ces choix qu'il y ait une incitation à l'aide.
Absolument.
Non, mais vous met en disposition mentale d'accepter. Évidemment, les petits chats, ça vous anesthésie l'esprit.
Mais c'est surtout par ce canal que sont entrées les fake news.
C'est par ce canal, oui, c'est ça, par ce tunnel en quelque sorte.
Parce que la vidéo est populaire, elle fait beaucoup de clics. Si elle fait beaucoup de clics, elle valorise les publicités que propose Facebook et du coup, elle permet de s'engager. Facebook a, depuis la crise, hein, élection de Donald Trump, etc., a complètement révisé son modèle de publicité. Ça fait partie des décisions actuelles pour essayer de se retrouver une sorte de confiance du public. Et donc aujourd'hui, la publicité politique doit être... Il y a une demande très forte et qui est juste des gouvernements et des sociétés civiles à l'égard des plateformes, qui est qu'on sache qui paye la publicité. Et donc on va avoir une information transparente qui maintenant est mise en place sur les gens qui profitent des systèmes de diffusion virale de contenus qui peuvent être effectivement des contenus publicitaires, qui peuvent être des petits chats, mais qui peuvent aussi être des fake news.
Et là, Facebook est prêt à faire des efforts là-dessus.
Parce que l'une des questions qui se pose, Clara Donnachmelk, est effectivement de savoir qui, par exemple, peut influencer sur qui peut influencer les élections, qui peut influencer les différents contenus qui sont diffusés sur Facebook. On est, par exemple, actuellement en cours de campagne électorale en France. Y a-t-il, d'après vous, des influences, des tentatives d'influence sur ces élections par des États étrangers?
Alors attention, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi d'autres réseaux comme WhatsApp, où il peut y avoir des groupes d'influence qui sont moins évidents à identifier et qui sont moins visibles, puisque ce sont des groupes privés et ce n'est pas directement sur la plateforme Facebook.
Mais sur le plan politique, quelles sont les conséquences de ces influences ou de ces tentatives d'influence?
Elles peuvent influencer le vote, mais là encore, il faut analyser ça avec prudence, parce que personne ne sait exactement... comment mesurer l'impact de cette influence et vous pouvez par exemple être très influencé sur Facebook par les posts d'un candidat ou d'un parti qui reviennent régulièrement du fait de votre algorithme et devant l'isoloir finalement changer d'avis brutalement.
Mais est-ce que ça ne crée pas un problème démocratique à partir du moment où un État peut effectivement influer?
Faire basculer, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Si, ça crée un problème démocratique parce que la campagne politique n'appartient plus exclusivement à un État. Donc il y a une souveraineté nationale quand même qui est mise en cause.
Et par rapport à cela, est-ce que ça n'appellerait pas justement une régulation supplémentaire de Facebook ?
Si, Facebook s'est engagé à supprimer tous les contenus qui seraient une production délibérée de faux au sujet de certains candidats. Comme par exemple, il y a eu des fausses nouvelles au sujet de la candidate d'Emmanuel Macron. Là, Facebook s'engage à les retirer dans les plus brefs délais parce que, bien sûr, ça fausse le scrutin.
Dominique Cardon, votre point de vue justement sur la question démocratique posée par Facebook?
Non, il y a une vraie question démocratique sur ces enjeux, sur les élections. Moi, je suis beaucoup moins inquiet quand même, en tout cas dans la situation française, sur ces influences qui sont souterraines, qui passent par le bas, qui passent par les réseaux de conversation. En réalité, en France, on a des tentatives, hein, ça, on le sait très bien. Mais globalement...
Ah oui, on sait quoi?
Il y a eu pendant la campagne présidentielle, il y a eu un leaks d'informations venant de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, qui était une organisation,
une fuite
extérieure, et que évidemment il y a des officines qui essayent de mettre en place ce système.
Quelle était la place de Facebook dans ce dispositif?
Il devient éventuellement le support avec d'autres plateformes et comme l'a dit Clara, WhatsApp, les plateformes à petite visibilité pour les faire circuler. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister, ça n'a réellement d'effet que si des acteurs dominants, majeurs, grands médias, hommes politiques s'en saisissent pour fabriquer de la thématique politique absolument clivante, comme l'a fait Donald Trump.
Ou de la thématique médiatique.
Voilà.
Alors justement, ça c'est important. Dominique Cardon, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que certains pensent que le marché de l'information est complètement dérégulé. Vous ne pensez pas cela? C'est-à-dire, vous pensez en fait qu'une fake news, pour être véritablement agissante, il faut qu'elle soit reprise par des médias qui sont des médias ayant en quelque sorte pignon sur rue, c'est ça?
Oui, absolument. Il faut mettre en place un cycle de production de l'agenda public. Et alors, effectivement, on a dérégulé le marché informationnel. Et alors, n'importe qui peut publier et n'importe qui pourrait voir des informations qui étaient publiées par d'autres. En réalité, les pratiques sont très... beaucoup plus organisé que ça, et il y a une architecture de l'information qui s'est mise en place. Et oui, mais aux États-Unis, d'une certaine manière aussi, le cycle qui s'est mis en place aux États-Unis, c'est que Fox News a diffusé des fake news. Et Fox News, c'est 30% des téléspectateurs américains. Donc si vous avez une énorme chaîne de télévision qui produit et diffuse massivement des informations qui sont fausses, qu'elles ont été prendre dans les caves du web, chez ses officines, pour leur donner de la visibilité, de la circulation, elles clivent et elles polarisent complètement l'espace des opinions, elles font exister deux réalités, des faits alternatifs, et elles produisent des effets qu'on a. On n'a pas ça encore en France, dans la situation actuelle.
Qu'est-ce que vous en pensez, Clara Doyna-Schmelk?
Oui, je suis assez en phase avec Dominique Cardon là-dessus. Je pense que les Facebook est simplement une étape dans l'influence, et qu'en fait, les gens lisent encore beaucoup les journaux, les médias en France, ils écoutent la radio, et donc si un contenu vraiment faux n'est pas repris comme tel par un grand média, ce contenu va rester comme assez marginal et son influence sera limitée.
Est-ce qu'on a des exemples de cela ? Est-ce qu'on a des exemples de fake news réussis sur le plan politique, hein, je veux dire, des fake news qui ont pesé sur des élections, qui ont été reprises par des grands médias ou pas d'ailleurs ?
Alors, il n'y a pas vraiment des fake news, mais il peut y avoir des faits qui sont interprétés d'une certaine manière excessive et qui peuvent être reprises dans les médias, comme par exemple là, cette une de Valeurs Actuelles, qui est un média, hein, qui est un média professionnel, sur ça s'appelle la nouvelle terreur féministe, donc ils reprennent des contenus. Donc certains, en mélangeant des faits réels, mais en les interprétant...
C'est quoi la nouvelle terreur féministe ?
Donc tout mélanger, l'écriture inclusive, ils rapportent certains faits comme quoi des féministes seraient assez durs, des accusations éventuellement fondées, et ils en font un thème. Ils catalysent cela pour en faire une thématique, un féminisme qui serait une sorte de guerre des sexes.
Et alors cette thématique,
elle est portée de manière officielle, et elle peut aboutir à des choix politiques. Et par exemple, si un candidat va faire une remarque sur l'emprise des féministes sur le débat public, là, certains électeurs prêteront l'oreille à cela.
Et est-ce qu'on a carrément de fausses informations qui ont été diffusées ? Parce qu'on entend souvent évoquer, alors pas forcément effectivement dans le débat public, mais lorsqu'on discute avec des individus, on entend par exemple un rapport secret d'Obama qui tendrait à prouver telle chose, ou alors le fait que il y a eu des faits extrêmement importants qui se sont déroulés à l'insu des Français au sein de la communauté européenne. Tout ça, ça pèse quand même dans les élections, Clara Doyna-Schmelk.
Oui, alors récemment, on a eu l'affaire des deux touristes qui était en otage. Là, on a eu de la part du gouvernement une réaction assez rapide en disant qu'ils avaient pris d'énormes risques. Et en fait, il fallait relativiser cette prise de risque. Alors, c'est pas vraiment un faux, mais c'est quand même une réaction trop précipitée, et qui a peut-être eu aussi été influencée par les réactions immédiates sur les réseaux sociaux, où les gens s'indignaient en disant « deux touristes irresponsables ». Et ça peut avoir aussi un impact électoral si un candidat récupère le fait.
Dominique Cardon, je vais prendre un exemple d'une fake news qui a pesé dès lors qu'elle a été diffusée. Le fait, par exemple, de savoir que les banques centrales étaient en réalité des banques privées, ou étaient possédées par des banques privées, ou étaient présidées par des banquiers privés. Bref, il y a différentes variabilités de ça. Ça a été diffusé sur Facebook, mais pas uniquement. Est-ce que ça, par exemple, c'est un phénomène nouveau ? Est-ce que la diffusion par Facebook pose un problème complètement inédit pour les démocraties?
Alors, ça relance la diffusion de rumeurs de façon nouvelle et importante, et ça peut avoir des effets. Mais on s'intéresse toujours dans ce débat. Fake news, c'est vraiment compliqué comme mot. Hein.
Oui. Pourquoi c'est compliqué?
Parce qu'on voit bien que le débat sur Valeurs Actuelles, il n'y a pas de fake news. Il y a juste un débat idéologique dans lequel...
C'est une façon de compresser des faits et de les associer entre
voilà.
eux.
Voilà, mais dans lequel, dans l'offre idéologique, on peut avoir des compétitions entre des interprétations. Ce sur quoi il faut toujours revenir, c'est qu'à la fin, la compétition électorale et les effets qu'elle peut avoir, c'est un effet d'agenda, c'est-à-dire c'est d'arriver à imposer aux électeurs au moment où ils vont voter quel est le grand thème sur lequel ils sont en train de prendre une décision. Et dans cette compétition des interprétations, si on met l'immigration en tête des priorités, c'est pas la même chose que si on met l'Europe. Et ça, les acteurs, médias et différents influenceurs essayent d'organiser cette compétition sur les thèmes, et les fake news peuvent venir nourrir un certain nombre de déplacements du débat public sur certains de ces thèmes.
Bon, mais alors dans ce cas-là, modifions légèrement la question ou l'angle. Si vous prenez, par exemple, le rôle que l'on fait jouer à Facebook dans les élections, le fait, par exemple, qu'un candidat aux États-Unis, je pense à Donald Trump, ait utilisé une fonctionnalité de Facebook via une société Cambridge Analytica pour influencer les électeurs. Je ne dis pas qu'il a réussi à le faire, mais il a tenté de le faire, et il a tenté de le faire de manière parfaitement illégale. La preuve, d'ailleurs, Facebook va avoir une large amende. Est-ce que ça ne pose pas un problème nouveau sur la démocratie, le fait même de vouloir tenter de le faire? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, Dominique Carton?
Ces nouvelles officines, la manière dont elles sont financées, la relation qu'elles ont avec la déclaration des comptes de transparence des campagnes, etc., est un véritable problème. L'usage des plateformes de type Facebook est aussi un problème qu'on voit bien qu'on est en train... Facebook a failli considérablement en laissant passer, à cause de son modèle beaucoup trop ouvert, et beaucoup trop ouvert pour les raisons publicitaires évoquées tout à l'heure, en laissant passer ces informations. Mais elles ont des effets. Vous voyez, on a une enquête sur Twitter, 80% des fake news qui sont passées sur Twitter aux États-Unis pendant la campagne électorale ont été vues par 1% des comptes. Et ces 1% des comptes, c'est des militants pro-Donald Trump de façon extrêmement forte, publiés dans Science.
Mais ça arrive aussi que les militants changent d'avis. Je veux dire que des gens engagés dans un parti aillent ensuite dans un autre parti.
Ah, oui, non, mais évidemment, ça peut jouer. Mais vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup moins important qu'un éditorial sur Fox News qui est vu par 30 personnes et qui prononce des fake news, parce que ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis.
Quel type de fake news?
L'ensemble du débat, alors c'est il faut rentrer dans la campagne américaine sur Uranium One, une entreprise kazakh à laquelle on a fait croire que Hillary Clinton avait touché de l'argent et favorisé la privatisation et le rachat de cette campagne pour les intérêts de sa propre fondation, c'était une des nouvelles importantes parmi beaucoup d'autres qui ont été produites, était assénée sur Fox News. Et donc, en imposant l'immigration et la personnalité de Donald Trump de façon forte, on a construit l'agenda sur lequel les Américains se sont prononcés comme ils se sont prononcés.
Qu'est-ce que vous en pensez, Clara Doynach-Melk, à ce sujet? Est-ce que le fait de vouloir seulement subvertir les règles démocratiques, parce que Facebook le permet de manière inédite, je ne dis pas nécessairement que ça fonctionne, mais si les gens payent, comme par exemple avec Cambridge Analytica, c'est qu'ils pensent que ça fonctionne.
Ils essayent, oui.
Est-ce que ça ne pose pas des questions nouvelles sur la démocratie?
Si, parce que déjà, ça donne l'idée aux gens d'être subversifs, voire séditieux. Maintenant, presque nouvelle génération a assimilé le fait qu'ils avaient le choix éventuellement d'influencer, de produire des faux pour donner lieu à un nouvel agenda politique. Donc c'est dans les esprits en fait que ça change. Sur le long terme, l'idée de République en France, par exemple, n'a plus vraiment le même référentiel culturel qu'il y a encore 10 ans.
Ben ça, c'est pas rien.
Pas rien du tout. Très grave.
Et alors, donc, est-ce que c'est grave vis-à-vis des réseaux sociaux en général, de Facebook en particulier, au vu du trafic que Facebook génère par rapport aux autres réseaux sociaux, et si on cumule avec Instagram et
WhatsApp.
Avec WhatsApp. Oui, puisque WhatsApp joue de manière beaucoup plus importante qu'Instagram. Il faut expliquer cela aux auditeurs qui ne seraient pas familiers.
Alors oui, parce que Instagram, c'est beaucoup de photographies. Alors, aller chercher des fake news sur Instagram, oui, puisqu'on peut produire de fausses images, mais ça n'a pas le même impact. Alors que WhatsApp, ce sont des groupes de conversations. Donc là, si vous voulez manipuler quelqu'un, vous avez... En plus, les conversations ne sont pas limitées par des caractères comme sur Twitter. Il n'y a pas 280 caractères. Donc vous pouvez le faire. C'est assez discret. Et surtout, c'est la possibilité, en fait, vraiment d'influencer en sous-sol.
Mais alors, et sur WhatsApp, peut-on influencer des gens qu'on ne connaît pas?
S'ils intègrent le groupe WhatsApp, oui.
Et comment peuvent-ils l'intégrer?
Par l'intermédiaire d'un tiers.
Oui, parce que...
Donc vous pouvez être, moi ça m'est arrivé, d'être engagé dans des groupes WhatsApp sur, par exemple, il faut faire démissionner Macron.
Et alors qu'est-ce que ça disait, par
exemple? En disant, alors là, des faux sur Emmanuel Macron, il a détourné de l'argent, il a reçu de l'argent de Poutine, ceci, cela, si, il faut absolument qu'il démissionne. Donc là, c'est carrément des théories du complot. Parfois par des personnes qui ont des pseudonymes, donc qui n'assument même pas leurs propos, et qui en fait vont fragiliser la démocratie puisqu'ils s'adressent à des lecteurs de la presse.
Dominique Cardon, une dernière question sur Facebook, toujours dans les questions inédites qui se posent, les données personnelles et là aussi des questions qui sont des questions complètement nouvelle, puisque jadis, on ne s'intéressait pas autant à la protection des données personnelles.
Alors, c'est effectivement un des enjeux majeurs avec toutes les plateformes, mais Facebook en particulier. Quand on a un modèle publicitaire, on a précisément besoin d'avoir beaucoup d'informations sur les utilisateurs, et donc il y a un prélèvement de données personnelles qui est devenu le centre du modèle économique, en réalité, de Facebook. Et du coup, du problème que posent ces entreprises. Il faut les réguler. Alors, on sait qu'en Europe, on a passé un pas avec le RGPD. On est sans doute encore en deçà.
Le RGPD, c'est
le règlement général sur la propriété des données, qui est un pas dans la bonne direction, mais il y a encore sans doute beaucoup à faire dans ces questions. La donnée personnelle est un peu au cœur de toutes les transformations de ce nouveau capitalisme de la surveillance qui se met en place.
Mais ça sert à quelque chose, la détention de ces données personnelles? Parce que vous disiez tout à l'heure, Dominique Cardon, que finalement, l'intelligence artificielle n'était pas si intelligente que ça.
C'est là qu'il y a un leurre, mais vous savez que les marchés économiques fonctionnent à la promesse et à la croyance. C'est-à-dire que pour l'instant, on continue à faire croire au marché publicitaire que c'est efficace, et tant qu'on arrive à faire croire au marché publicitaire que c'est efficace.
Bon, et ça, c'est le problème du marché publicitaire.
Ces données sont inspirées à la fois pour la production de l'algorithme, mais principalement.
On revient au modèle économique de Facebook.
Clara Donnachmel, qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à cela et par rapport aux protections suffisantes, insuffisantes des données personnelles sur Facebook notamment?
Facebook dit ne pas vendre vos données, mais en fait, il vend les données qui sont travaillées. Ils ont travaillé la matière première, donc ils estiment en être quelque part les dépositaires. Et ça, c'est vrai que ça appelle à une régulation plus stricte.
Par exemple, sur quoi faudrait-il faire des efforts?
Pouvoir disposer de... est-ce que les gouvernements doivent pouvoir disposer des données? C'est aussi une question, parce que sinon, est-ce que c'est pas une autre forme aussi de... Pas de censure, mais disons de contrôle. C'est une société du contrôle qui risque de s'installer à la faveur de Facebook.
C'est ce que vous pensez, Dominique Cardon?
Oui, non, il faut surtout pas que le gouvernement accède aux données de Facebook, mais en revanche, dans le RGPD, par exemple, il y a une dimension très compliquée à mettre en œuvre, qu'on appelle la portabilité. Il faut absolument redonner des droits à l'utilisateur, en fait, sur ces affaires de contrôle, de propriété, d'effacement, etc. Et il y a aussi un droit à la portabilité. Ça veut dire que j'ai mis mes données sur Facebook, je peux les reprendre et les donner à un autre réseau. Ce qui empêche la fluidité du marché et le monopole de Facebook, c'est justement cette captation de nos récits et du coup de nos données qui nous enferment dans la plateforme. Je peux ajouter un tout petit truc sur le parce qu'on a beaucoup débattu des affaires politiques, manipulation de la démocratie.
On n'a pas parlé vraiment, oui.
Et il y a un débat fort sur Facebook, l'endroit où il y a vraiment de l'information douteuse, mauvaise, dangereuse, etc. C'est sur la science, c'est sur la santé. Les espaces de circulation sur le vaccin, sur des traitements médicaux absurdes, sur de la recherche qui dit le contraire de ce qui est dit dans la recherche. C'est en fait le vrai enjeu pour Facebook et pour beaucoup d'acteurs, c'est autour de la diffusion de cette information qui passe son temps à circuler sur ces réseaux.
Un mot de conclusion.
Une remarque sur les faux qui sont produits sur les réseaux sociaux et qui passent après à des acteurs beaucoup plus importants médiatiquement. C'est ce qui s'est passé à la Salpêtrière avec les Gilets jaunes, où effectivement, sur les réseaux sociaux, on lisait que l'hôpital avait été attaqué. Ça a été repris par le ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est pas rien. Et ça, c'est une information fausse, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui s'étaient réfugiées dans l'hôpital.
Merci à tous les deux, Clara Donnachmel, Les métiers du futur, le livre que vous avez publié avec Isabelle Rouen, Dominique Cardon, Culture numérique aux éditions Presse de Sciences Po.